Eh bien, bonjour à tous. Ça a été une grosse semaine. On a eu plusieurs activités cette semaine, en plus de tous les ministères qui se déroulent régulièrement. Je pense aux groupes de femmes le mercredi matin, les groupes d'hommes et les réunions dans les maisons, dans les foyers aussi, les jeunes qui se réunissent le vendredi soir et tout ça. En plus de tout ça, on avait deux activités importantes cette semaine. Je pense à hier matin, justement, Jean-François mentionnait le déjeuner pour hommes. On aimerait vraiment vous encourager à venir. C'est juste une fois par mois, un samedi matin. Ça nous donne une belle occasion, les gars, d'être ensemble. Et on parle des sujets qui nous concernent, plus précisément les hommes. Et hier matin, on avait M. Bacon. On tient à vous remercier, M. Bacon. Vous avez vraiment eu un beau témoignage. Lorsque je suis arrivé à la maison hier, après le déjeuner, ma femme m'a demandé puis comment c'était ce matin. La première chose que j'ai dit à ma femme, la première chose qui me venait à l'esprit d'ailleurs, j'ai vraiment vu qu'est-ce que ça a l'air, quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis plusieurs années et tout l'œuvre que Dieu a faite dans sa vie. C'est vraiment, vraiment beau et de voir aussi votre couple et votre témoignage sur votre couple. C'est vraiment bien. Alors, je sais pas, est-ce que ça a été enregistré? Est-ce que ça a été ça a été placé sur l'Internet? Oui? Ah, sur demande, OK. Donc, mesdames, si vous voulez avoir donner un bon message à votre mari, beau témoignage à votre mari, c'est bien fait. Il nous a parlé hier matin, les hommes, et puis ça a été bien fait. Donc, donnez un beau cadeau à votre mari. Là, ça, vous pourrez peut-être même l'écouter ensemble. Soyez juste gentils avec lui quand vous allez écouter. C'est pas, tiens, je te l'avais dit. Hein? Parce que, tu sais, dans le fond, soyez honnêtes, on est pas mal, on est plaignards. Hein? Je sais pas, est-ce que vous êtes plaignards, vous autres? Ça arrive de vous plaindre, vous êtes pas content. Non, c'est correct. On se plaint pour toutes sortes d'affaires, tu sais, honnêtement, on se plaint, là. On est en employé, on se plaint des boss, des patrons. Si t'es un patron, tu te plains des employés. Tu te plains de tes frères, tes sœurs, tu te plains de ta femme, tu te plains de ton mari. On est plaignards. Tu sais, des fois, je vois des couples, tout ça, puis t'es là, puis tu te demandes, hey, ça serait vraiment le fun d'être dans la maison, puis d'entendre se plaindre l'un de l'autre, qu'est-ce qu'elle pense, puis de lui, puis qu'est-ce que lui. Bien, imaginez-vous donc, il y a une étude qui a été faite, vraiment une vaste enquête qui a été menée à l'Université de Louisville, pour savoir quelles étaient les plaintes des maris envers leurs femmes, les plus courantes, celles qui reviennent le plus souvent, d'accord? Les plaintes, les critiques qui reviennent le plus souvent des maris envers leurs femmes. Puis les femmes envers leurs maris. On va juste vous donner une partie ce matin, les hommes envers leurs femmes. Non, je ne fais pas ça, là. Va me faire massacrer. Non, je ferai pas ça. On va vous donner les deux parties, d'accord? Alors, on commence avec qui, tiens? Alors, on va commencer avec les hommes. Première plainte qu'on entend souvent, courante. Je ne sais pas comment dire ça, traduire ça en français, là, le silent treatment, la punition par silence, ou la cure du silence. Parle pas. Oh, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Puis tout, puis là, c'est comme, se tait. Aïe, ça arrive des fois chez nous, rarement, mais ça arrive. Il faut que je fasse attention parce que là, il y a un écran à l'autre bord, puis ma femme entend des fois, hein. L'autre bord est au kiosque, elle est là, puis elle dit, ouais, t'as dit ça ce matin. Ça arrive jamais chez nous. Mais si jamais ça arrive, bien, moi, ça me brûle. Oh, la cure du silence. La punition du silence. Deuxième plainte qu'on entend. Ramène les fautes du passé. Les gars aiment pas ça quand madame vous ramenez les fautes du passé. Tu sais, d'accord? Ça, c'est la plainte des gars qu'on entend très souvent à l'endroit de leur femme. On ramène les plaintes du passé. J'entends, hey, vous êtes vraiment silencieux. Vous faites attention, hein? Hein? OK. Troisièmement, elle est trop froide ou elle est trop chaude? J'ai la barre. Je dis absolument rien là-dessus. C'est quand je me tais. Critique. Ça revient souvent à ça. Dernière plainte qu'on entend le plus souvent. Entêté et refuse de lâcher prise. Bon, mais on arrête-tu là ce matin? Non, hein? À votre tour, mesdames. Hein? Est-ce que vous voulez l'entendre, vous autres? Moi? Ouais? Hein? Non? Non? J'entends les grosses voix. Non? J'entends? Oui! OK. Voici ce qu'on entend des femmes. Les femmes se plaignent de leurs hommes. Et voici ce qu'on entend le plus souvent. Alors, en passant, les célibataires, prenez des notes, là. Non, c'est le temps de prendre des notes, là. Prenez ça, là. C'est vraiment important, là. Des choses importantes, ici, là. Alors, voici les plaintes les plus fréquentes des femmes envers leur mari. Un. Oublie des dates importantes. Ne pas travailler assez fort à son travail. Manque de vigueur au travail. L'autre. Vos rotes. Ils rotent trop fort. Puis c'est flatulence. Voilà ce que votre femme pense de vous. Au fond d'elle. Regarde les autres femmes. Puis... Dernier, entêté et refuse de lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Quelque chose de vraiment intéressant. Les deux derniers, elle est entêtée, il est entêté. Elle est entêtée, il refuse de lâcher prise. Il est entêté, il refuse de lâcher prise. Les plaintes qui reviennent des deux. D'accord? Alors, l'une des grandes qualités qu'on a besoin dans notre vie de couple et notre vie de célibataire, employé, employeur aussi, une des grandes qualités qui va faire une différence dans la vie de nos couples, c'est quoi? Une grande qualité. La patience. J'ai demandé à quelqu'un qui vient de se marier dernièrement ce matin, comment ça va ton mariage, toujours heureux, il dit, oui, mais il dit, c'est du travail. Et l'une des qualités qu'on a vraiment besoin dans notre mariage, c'est la patience. Et on va voir ça justement cette semaine. On est en train de faire une série pour ceux qui étaient avec nous juste pour la première fois ce matin qui nous visitent. On aimerait vous souhaiter la bienvenue. On aimerait également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent par Internet. Bonjour. Alors, je sais pas quelle caméra qui est en train de me regarder, peut-être celle-là ou celle-là. Mais bonjour. On est bien content que vous soyez là. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être de Fermont, d'ailleurs, partout à travers la province. En passant, il y a de la neige à Fermont. Ma fille m'a envoyé une photo de Fermont, puis il y avait de la neige. Les enfants étaient en train de se jouer dans la neige. Eh, hey, mon doux, as-tu hâte de revenir? Aïe, aïe, aïe. Il y a de la neige là-bas. Il y a de la neige, trop de la neige là-bas. Il y a de la neige même au mois de juin là-bas, quasiment. Mais c'est tellement beau. Moi, j'aime ça là-bas, faire un petit tour. OK, on a besoin de la patience. On est en train de faire une série, puis on a vu déjà quelques fruits. On a vu l'amour, on a vu la paix, on a vu quelques fruits de l'esprit. Mais l'une des qualités qu'on a vraiment besoin, qui est très importante, on pense que l'amour, c'est hyper important. On pense que la paix, c'est très important. La joie, c'est très important. Mais savez-vous quoi? L'impatience. On met moins d'accent sur l'impatience parce qu'on est tous un peu impatients. Honnêtement, là, mais on va voir finalement que la patience, c'est une très, très grande qualité. Et c'est tellement essentiel. On va voir vraiment qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça et pourquoi c'est si important. Et pour ce faire, on va tourner dans un passage sur lequel on va s'arrêter ce matin, qui se trouve dans Jacques, le passage dans le Nouveau Testament, et chapitre 5. Juste avant, si vous voulez bien, on va prier. Et j'aimerais prier pour la famille Clément. Je sais pas, j'ai vu Francine tantôt. Francine, Clément. Ah, elle est là. Francine, on veut te souhaiter notre sympathie, nos condoléances. Elle a perdu papa il y a quelques jours. Ça fait quoi? Une semaine à peu près? Jeudi, cette semaine. Donc, on veut prier pour Francine et sa famille. Le service va être vendredi. Et prier pour des gens qui sont dans l'assemblée, qui sont malades, qui passent par des temps difficiles. Seigneur notre Dieu, on veut tout d'abord te remercier de savoir que tu es avec nous, que tu es présent ici avec nous, et on veut te remercier pour tout ce que tu fais. Merci pour jeudi soir aussi avec la diffusion du film Heureux naufrage. Merci pour Alex et son beau témoignage. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous bénir ensemble ce matin et tu puisses nous parler à nos cœurs, des choses que nous avons besoin d'entendre ensemble. Mais on réalise, Seigneur, que nous avons tellement besoin de ton aide, surtout en regard à la patience. Et d'ailleurs, tous les fruits de l'esprit, c'est vraiment une qualité, des qualités que tu veux nous communiquer, nous transmettre en nous. Tu veux, Seigneur, cultiver plus de patience en chacun d'entre nous, afin que nous puissions refléter le beau caractère de Jésus-Christ, qui a été tellement patient avec chacun d'entre nous. Donc, parle à nos cœurs ce matin. Ouvre les yeux de notre cœur afin qu'on voit les richesses de ta parole et que tu nous donnes cette grâce de pouvoir mettre ces choses en pratique pour ta gloire. C'est vraiment pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, on tourne dans Jacques, chapitre 5, et j'aimerais commencer la lecture au verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Alors Jacques commence, et c'est très simple, Jacques commence en disant, soyez patients. Soyons patients. C'est ça son message. Maintenant, il ne s'arrête pas là, il ne fait pas juste dire soyez patients et changer de sujet. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner les raisons pour être patient. Et ce qu'on découvre premièrement, c'est que l'impatience produit de mauvais fruits. L'impatience nuit à nos relations. Dans son livre « Les intimes », Raymond-Philippe Auguste dit ceci, dit « Le monde est quelquefois indulgent pour une première faute, mais il est sans pardon pour celles qui suivent. » On est impatient. Mais il faut aller au fond du problème. Et c'est ce que Jésus a fait. Par exemple, les chefs religieux du temps de Jésus mettaient beaucoup d'accent. On parle aux pharisiens et tout ça, des pharisiens. Et ces gens-là mettaient beaucoup d'accent sur ce qui paraissait, sur le paraître. C'est ce que les gens voyaient. D'ailleurs, Jésus va même dire dans Matthieu chapitre 6, « Ne faites pas comme eux qui font tout pour paraître, pour bien paraître. » Et ils agissent, ils sont religieux et tout ça, afin de donner l'impression qu'ils sont tellement spirituels, tellement religieux. Jésus dit, non, Jésus, lui, veut aller plus loin. Il veut aller au cœur. On peut prendre plusieurs exemples. Prenons-en un avec la question de la colère. Et voici ce que Jésus va dire. Il dit dans Matthieu 5, « Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis, et là, Jésus va aller plus loin, il va aller à la source du problème, il va retourner en arrière, il va aller jusqu'au cœur. Il dit, « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. » Et que celui qui lui dira insensé, le traité d'imbécile, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Jésus allait au cœur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on devient chrétien, l'une des choses qui va se produire, lorsque tu décides de placer ta foi en Jésus-Christ, tu reconnais que Jésus est allé à la croix pour tes péchés, et que tu demandes à Jésus de te sauver, de pardonner tes fautes, et tu crois que Jésus a pris ta place là sur la croix pour te sauver, pardonner tes fautes, et faire de toi un enfant de Dieu. Lorsque ça arrive, une des choses qui va arriver, c'est que tu vas devenir beaucoup plus conscient de l'état de ton cœur. C'est un phénomène qu'on voit. Les personnes qui viennent à Jésus-Christ, qui s'approchent de Jésus-Christ, voient tout d'un coup, c'est comme un rideau qui s'ouvre, qui voit un peu plus l'état de son cœur. Il y a des gens qui voyaient pas du tout le péché. Ils disaient, le péché, ça n'existe pas pendant des années et tout ça. Ils vont venir à Jésus-Christ, puis d'un coup, deviennent avec un cœur tellement sensible. Ils réalisent à quel point ils avaient... ils faisaient souvent des affronts à Dieu. Ils avaient tassé Dieu de leur vie. Et tout d'un coup, il y a des choses dans leur cœur qui paraissent, qu'ils ne voyaient pas avant. Parce que Jésus, lui, il veut aller à ton cœur. Jésus s'adresse à ton cœur. Et c'est ça vraiment qui va différencier la religion avec la relation avec Jésus-Christ. On devient plus conscient. On parle au niveau du cœur ici. La Bible enseigne que l'essence du péché, en fin de compte, et c'est le passage sur la colère, le montre, et d'autres aussi d'ailleurs. On passe à d'autres passages comme l'adultère et tout ça, va aller au cœur du problème. Parce que la Bible enseigne que l'essence du péché, c'est une attitude, c'est l'attitude du cœur. D'où cette déclaration pas mal choc au verset 9. C'est assez fort comme déclaration. Jacques, qui dit dans le chapitre 5, verset 9, qu'on vient de lire tantôt, va dire, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés, voici le juge tient à la porte. » C'est pas mal fort comme déclaration, ça. Le mot « se plaindre » ici dans l'original, c'est l'idée de murmurer, gémir. C'est vraiment quelque chose, ça commence ton cœur, tu commences à avoir de la colère, ou plus de la colère même, du mépris dans ton cœur à l'endroit d'une autre personne. Et ça commence là. Et d'ailleurs, la violence, c'est là que ça commence au cœur. C'est une plainte qui est là, qui devient de plus en plus agressive, et elle conduit ultimement à la violence. Mais la violence commence d'abord au niveau du cœur. Voici ce qui arrive avec la violence. Avant la violence, avant ça, la violence, c'est ce qui paraît. Peut-être qu'une personne va frapper, elle devient violente et tout ça. Ça paraît, mais derrière ça, en arrière de la violence, avant même que la violence sorte, ce qui est extérieur, ça a commencé au niveau du cœur. C'est à peu près comme le volcan. La violence est comme un volcan qui fait éruption. Mais la lave qui va sortir, qui jaillit du volcan qui fait éruption, c'est l'impatience en arrière de tout ça. Et ça commence là. Vois-tu, l'impatience produit de mauvais fruits. Elle nuit aux relations. Et elle incite aux plaintes, aux murmures. Et ultimement, même, elle conduit à notre perte. Elle attire même le châtiment de Dieu. Vous allez voir pourquoi tantôt on va comprendre ça à mesure qu'on va avancer. Voici le problème de fond. Ça commence avec notre impatience envers Dieu. Notre impatience commence là avec notre impatience envers Dieu. Regardez bien l'image que Jacques va employer dans son passage au verset 7. Il dit ceci. Il dit, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. » Et là, il donne une image du cultivateur. Il va prendre une illustration. Il dit, « Regarde le cultivateur, comment est-ce qu'il agit. » Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Quand on pense à l'impatience, on a tendance à penser à ce qu'on peut ressentir les uns envers les autres. Quelqu'un coupe sur l'autoroute et tout ça, c'est fatigant, c'est frustrant ça. C'est les lumières rouges et tout ça, c'est frustrant. Il me semble qu'il y en a que ça finit pas, c'est long. Et on pense à ça, l'impatience, à ces choses-là. On pense à aux parents envers leurs enfants, les enfants envers leurs parents et tout ça, les employés entre eux. Mais la raison pour laquelle la Bible met tellement d'accent sur l'impatience et fait de telles déclarations choc sur l'impatience, la raison que l'impatience est si mauvaise pour notre âme et notre cœur, c'est qu'à la base, notre impatience est d'abord et avant tout envers Dieu. Verset 7 dit ceci, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. » Maintenant, c'est quoi l'impatience? Bien, pour comprendre l'impatience, regarde le contraire. Regarde la patience. C'est quoi la patience? Maintenant, différents mots dans l'original, dans le Nouveau Testament, pour la patience. Mais essentiellement, qu'est-ce que c'est la patience? C'est l'habileté de prendre, d'attendre. D'encaisser même la souffrance en vue d'une satisfaction qui va être plus tard, qui est tardive, qui va venir plus tard, plus loin. La patience signifie que ça prend du temps avant qu'on explose ou avant qu'on se met en colère ou qu'on agit avec violence. Belle image du fermier ici. Tout comme le fermier, la patience est l'idée de travailler en acceptant que la récompense va venir plus tard. C'est ça la patience. La patience, c'est travailler avec une gratitude qui va venir. Une gratitude qui est différée. C'est la capacité de souffrir sans se mettre en colère. Quand on passe à travers des moments difficiles et que la pression monte, c'est facile de perdre le contrôle. Mais quelqu'un a bien défini la patience en disant ceci, c'est l'habileté d'encaisser la souffrance sans murmure. Voyez-vous, une personne patiente, c'est quelqu'un qui n'éclate pas, qui ne perd pas le contrôle. Maintenant, il y a différentes façons d'éclater. Il y a différentes façons de perdre patience. On peut être violent, évidemment, mais c'est plus visible et on comprend ça. Mais il existe d'autres façons d'éclater par notre manque de patience. Avec nos paroles, par exemple. On peut se plaindre les uns des autres. On commence à faire du mal aux autres. On va toucher la réputation des autres. La Bible dit qu'à ce moment-là, lorsque je commence à faire cela, c'est que j'ai perdu patience. Peut-être qu'on ne frappe pas avec les mains, mais on frappe avec nos paroles. Une personne patiente est celle qui peut prendre, est capable d'encaisser. Elle accepte que son travail ne lui procure pas la satisfaction immédiate. Elle souffre maintenant, elle attend, mais la satisfaction va venir plus tard. Elle travaille avec une gratification qui viendra plus tard, sans faire mal aux autres, avec ses mains ou avec ses paroles, ni dans son cœur, ni dans sa volonté. Quand ça ne tourne pas rond, on peut décider de prendre des choses en main parce qu'on est impatient. On peut dire, moi je suis tanné d'attendre, je vais tricher, ou je n'aurai jamais la femme ou le mari que je veux, alors je vais laisser tomber mes critères, je vais baisser mes critères, tout ça, j'y vais. Mais prendre les choses en main, ou accélérer les décisions pour avoir ce qu'on veut maintenant, car on est tanné d'attendre, c'est ce que David Polisson appelle la fausse utopie. C'est faux. C'est une utopie, mais c'est faux. C'est une fausse utopie. Tu travailles fort pour faire un travail bien fait. Tu travailles très fort. Tu es dévoué à ton travail. Mais ça ne fonctionne pas. Tu n'as pas la promotion à laquelle tu t'attendais. Ça avance pas. On dirait que c'est bloqué. Ou ton mariage. Tu pensais être marié à ce point-ci dans ta vie. Mais ça ne fonctionne pas. Tu es obligé d'attendre encore. Ou tu pensais être encore marié aujourd'hui, mais tu ne l'es plus. Qu'est-ce qui arrive? Le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Qu'est-ce qui arrive quand le calendrier de Dieu n'est pas synchronisé avec notre calendrier? Qu'est-ce qui arrive quand tu n'as pas la satisfaction que tu t'attendais? Tu te laisses aller, t'exploses dans ton cœur, dans ta volonté. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tu commences à fuir, tu commences à t'éloigner. Tu dis, moi, je vais prendre les choses en main. Mais une personne patiente va attendre. La gratification de ce que je fais va venir plus tard. Aujourd'hui, je vais peut-être souffrir. Et je souffre peut-être. Mais je vais attendre. Elle ne perd pas le contrôle. Elle ne fait pas mal aux autres par ses paroles ou dans son cœur. Car elle est prête à se soumettre au calendrier de Dieu. Même si ça signifie qu'elle n'aura pas ce qu'elle désire présentement. Le modèle que Jacques nous donne ici est celui du cultivateur. C'est un modèle vraiment intéressant. Voyez le cultivateur. Jacques nous dit, regardez le cultivateur. Il y a des leçons à prendre de là. Il dit, voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Judée, il y a vraiment juste deux saisons de pluie, printemps puis l'automne. Pour un fermier palestinien, ces pluies étaient très importantes. Ça, c'est vraiment la différence. Tu pouvais pas semer avant que la pluie d'automne arrive, parce que à cause des soleils, le soleil est tellement fort là-bas que la terre était sèche, c'était sec, c'était comme la poussière. Tu pouvais pas semer, là, ça n'aurait pas poussé, ça fallait attendre. Alors imaginez le manque de patience d'un fermier, il attend, il est tanné d'attendre, puis là la pluie n'arrive pas, puis lui il est tanné. Alors il cultive tout de suite. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va mourir. Imaginez, il se dit un matin, il se lève, il dit, moi, je suis tanné d'attendre, là, puis je vais semer. Je me fous, là, je dis, moi, j'y vais, je suis tanné. Je vais provoquer les affaires, je prends les affaires en main. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ça ne marchera pas. Si un fermier manque de patience et plante, ça ne poussera pas. Et maintenant, ça, c'est assez logique, puis je pense qu'on a moins de misère avec ça. Là où ça devient plus difficile, et la tentation est plus forte et plus subtile, c'est l'autre, l'automne. Maintenant, c'est une chose de dire, moi, je ne peux pas planter, la terre est toute sèche et tout ça, ça ne poussera pas, ça n'a pas de bon sens, ça c'est correct. Mais si tu as planté dans le bon moment, avec la pluie et tout ça, tu as planté, puis ça a commencé à pousser. Là ça commence à pousser, donc tu regardes, puis là, wow, il y a des belles pousses, ça pousse. Maintenant, les pluies du printemps n'arrivent pas. Et là, ça pousse, par exemple, mais la pluie du printemps n'arrive pas. Les pluies du printemps étaient nécessaires. Car si tu récoltais avant la pluie du printemps, ta récolte était presque nulle. Oui, à l'œil, on dirait qu'il y avait du fruit. Alors le fermier aurait pu se contenter de peu et dire, ben moi, ça a poussé, je vais prendre mes pertes là, je suis allé l'attendre, alors je vais ramasser ce qu'il y a là. C'est vraiment important ce que Jacques est en train de nous dire ici. C'est vraiment clé. La tentation était plus forte là, rendue là. C'est se dire, la pluie ne viendra pas, on doit arrêter nos pertes, on risque de tout perdre, si on attend plus, on va ramasser ce qu'on peut. Maintenant, si le fermier arrêtait là et amassait ce qu'il y avait dans les champs, il n'aurait qu'une fraction de ce qu'il aurait pu avoir. S'il pouvait juste attendre la pluie du printemps, ça serait l'abondance. Maintenant, certains parmi vous, vous êtes exactement là maintenant. Vous êtes dans cette période difficile où Dieu vous fait attendre. Pour des raisons qu'on ne comprend pas, vous vous retrouvez dans une situation où c'est l'épreuve, c'est difficile. Vous souffrez, c'est long. Vous êtes tanné. À vous, particulièrement, qui êtes dans cette période-là de votre vie, Dieu est en train de vous dire, sois patient. La pluie s'en vient. La pluie de la bénédiction de Dieu s'en vient. Sois patient. Dieu enverra sa pluie. Il va pleuvoir. Et là, on parle de la bénédiction de Dieu. Ne nous laissons pas aller à la colère ou à l'impatience. Ne lançons pas la serviette. Faisons attention à nos paroles. Gardons nos cœurs. Faisons confiance au Seigneur. Car si on soumet à sa volonté, il enverra la pluie en son temps. C'est la pluie de la bénédiction. Ça ne sera peut-être pas la pluie que tu t'attendais. Dieu ne répondra peut-être pas aux attentes que tu avais, mais il enverra la pluie et il y aura une récolte dans ton cœur. De beaux fruits vont pousser dans ton cœur. De belles choses se produiront. La patience va pousser même en toi. Et c'est difficile d'attendre. Attendre, c'est souffrant. Vous vous demandez peut-être quand est-ce qu'il va pleuvoir. Quand est-ce que Dieu va venir, s'il va intervenir. Je prie, il me semble qu'il ne répond pas. Il me semble que Dieu est silencieux. Il me semble que je ne le vois pas agir. Je ne comprends pas. Je ne vois pas la pluie, la bénédiction de Dieu. Vous dites, je ne peux plus vivre, moi, sans la pluie. La tentation est forte de réduire tes pertes et aller chercher la récolte. C'est tentant de te dire, bien, c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est mieux que rien. C'est mieux de pas rester seul. Alors, je vais aller chercher tout de suite. Je vais lancer la serviette. Mais non, c'est pire que rien. C'est pire que rien parce que là, tu n'as pas la bénédiction de Dieu avec toi. Tu n'as pas cette promesse. Si tu marches avec le Seigneur, la pluie va venir. Sa bénédiction va venir. C'est la raison pour laquelle Jacques va ajouter, voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit. Dieu prépare quelque chose de précieux pour toi, mais il faut être patient. Il te faut te soumettre au calendrier de Dieu et accepter son calendrier, qui n'est pas ton calendrier, qui n'est pas pareil comme le tien. Maintenant, il n'y a vraiment pas de raccourci à cette grâce incroyable qui pousse dans le cœur de celui ou celle qui est prêt à être obéissant au Seigneur et qui sont prêts à suivre son calendrier, le calendrier du Seigneur. Le contraire est vrai. Si tu apprends à être patient avec Dieu, tu seras fort probablement plus patient aussi avec les autres. Ta patience avec les autres dépend, en fin de compte, de ta patience avec Dieu. Maintenant, toi, tu ne comprends pas pourquoi ton patron ne t'a pas donné encore cette promotion que tu t'attendais d'avoir. Tu ne comprends pas et tu te frustres et dans ton cœur, maintenant, il y a toutes choses qui se passent. Tu as de la colère. Plutôt que de voir Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. C'est Dieu qui a permis que tu aies ce patron-là, aujourd'hui. Même si ce patron essaie de détruire même ta carrière pour X raisons, ultimement, c'est Dieu qui a permis que tu te trouves dans cette situation-là. Dans sa sagesse, Dieu a décidé de te garder là. Maintenant, ça ne veut pas dire que ton patron n'est pas fautif. Absolument. Il peut y avoir des patrons qui sont, ça n'a pas de bon sens, là, des témoignages et des choses que j'entends, absolument. Ça ne veut pas dire, en plus, que si tu as une chance, une belle occasion de prendre, d'avoir une promotion, tu y vas, absolument. Si tu peux peut-être même aller travailler ailleurs, ça va peut-être demander ça, absolument, oui, aucun problème. Mais ça veut dire, par exemple, que si tu es là et la porte est fermée, puis il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, à quelque part, au bout de ligne, sache que Dieu a son calendrier avec toi et il sait exactement ce qu'il fait. La Bible dit que notre vie est entre ses mains. Alors, si ma vie est entre les mains de Dieu et qu'il est parfaitement sage, me mettre en colère contre Dieu parce que je n'ai pas aujourd'hui ce que je voudrais, ça va me mettre encore plus en colère avec les autres. La colère commence avec Dieu, à quelque part dans mon cœur, mais elle va se diriger aussi avec les autres. Ça va avoir un impact. Mais si je crois que Dieu m'aime, si je crois que Dieu m'aime, qu'il est parfaitement au contrôle de ma vie, alors ma colère va s'apaiser. Mon impatience va s'apaiser. Elle va se calmer. Si bien que mon attitude envers les autres va changer, je vais pouvoir regarder mon patron et même dire, sais-tu, Seigneur, je vais faire quelque chose pour cet homme-là ou cette femme-là. Je vais faire quelque chose pour elle ou pour lui. Je vais essayer d'aider. Je vais garder cette attitude, une belle attitude. Et je vais même essayer de l'aider avec un cœur qui est dédié au Seigneur. Parce qu'il fait confiance, un cœur qui fait confiance à l'amour de Dieu. Tu sais, ta vie n'est pas un plan B avec Dieu. Ta vie est un plan A avec Dieu. Romains 10, 28 dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, là. Même nos épreuves. C'est pas agréable, les épreuves, c'est sûr. Mais au bout de ligne, de garder dans notre cœur cette patience et d'attendre la pluie de Dieu, que Dieu vienne nous délivrer. Alors, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu a un plan parfait. Et Dieu a ta vie entre ses mains. Et à mesure que tu travailles sur ta patience envers Dieu, tu verras que tu vas être de plus en plus capable d'encaisser la pression des gens autour de toi. Et c'est ce qui produit à mesure qu'on reconnaît que Dieu est au contrôle de notre situation. Ta patience envers les autres relève de ta patience aussi envers Dieu. Pourquoi être patient? Bien, parce que l'impatience produit de mauvais fruits. Et la patience produit de beaux fruits. Verset 11 dit ceci, nous disons heureux ceux. Alors Jacques 5, 11 dit, nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu que le Seigneur, ce que le Seigneur lui a accordé. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Le mot heureux ici est un mot assez fort dans la Bible. Il signifie un épanouissement total qui vient d'une relation intime avec Dieu. Le verset 11 dit que l'on considère béni, heureux, ceux qui endurent, ceux qui sont patients. Maintenant, Dieu aime le cœur patient. Il se sent chez lui dans le cœur patient. Alors que l'impatience nuit à notre relation avec Dieu, l'impatience nous empêche d'avoir la bénédiction de mieux connaître Dieu. Être impatient, c'est voir Dieu comme s'il devait être à mon service, de lui dire quoi faire exactement, de le ordonner. Mais Dieu vient et nous dit, écoute, je t'aime. Je t'aime. Je me suis donné à toi. J'ai même privé le ciel du plus grand trésor qui est le Fils de Dieu. Je l'ai envoyé ici, sur terre, pour toi, pour ton bien. Alors, je te demande maintenant de me faire confiance, puis de me servir, puis de me suivre. Et verset 11 dit, le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Car il sait que l'impatience nuit à nos relations avec lui et avec les autres. Dans Colossiens 3, 13, on a ce verset-là qui dit ceci. Tu dis, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Maintenant, supporter, c'est comme, c'est un peu négatif, vous ne trouvez pas? Je dois vous supporter. Il me semble que ça fait lourd. Là, vous allez dire, ouais, mais peut-être dans le mot original, c'est peut-être mieux. Non, c'est pire. Ça dit, endurez-vous. Hein? Je dois t'endurer. Puis tu dois m'endurer. Jusqu'à quand? Aïe, aïe, aïe. Endurez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre, alors pardonnez-vous. Aïe, supportez-vous les uns les autres. C'est une autre façon de dire, soyez non patients. Soyez patients les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs. C'est certain qu'on va décevoir. C'est certain que je vais te décevoir. Tu vas me décevoir, je vais te décevoir. J'entendais l'autre soir, jeudi, tu sais, que la critique, qu'il y a des hypocrites dans les églises. Ah, moi, je vois pas cette église-là, tout ça, tu sais, il y a des hypocrites, tout ça. Ben, tu sais, moi, ça me fait penser au pasteur qui avait entendu ça d'un gars, tu sais, puis le gars, il avait dit, ah, moi, je vois pas l'église, c'est plein d'hypocrites chez vous. Fait que le pasteur a dit, non, c'est correct, tu peux t'en venir, il y a de la place pour un autre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, dans le fond, c'est qu'on est tous pécheurs, on est tous hypocrites. Hein? À quelque part? Pas vrai? Pas une surprise. Tu viens chez nous, tu nous visites au sentier, tu vas voir quoi? Tu vas voir les hypocrites. C'est certain. Regarde bien ça. Lorsqu'une page web, une nouvelle page web est lancée, lorsqu'on lance une nouvelle page web, lorsqu'on lance une nouvelle fonction sur une page web, on la rend publique pour une période de temps, pour avoir l'opinion et les commentaires des gens, pour savoir c'est quoi les bugs, et puis tout ça, on va avoir des commentaires. Maintenant, on appelle cette version-là un site bêta. D'accord? Un site bêta. C'est la version bêta du site web. C'est une façon d'informer le public que le site n'est pas tout à fait au point, qu'il n'est pas tout à fait terminé. C'est une façon de dire aux gens, écoutez, vous pouvez visiter notre site, vous pouvez l'utiliser, mais on vous dit tout de suite, on vous avertit, on vous prévient, vous allez voir des bugs, ça ne marchera pas super, vous allez être frustré, pas super, mais envoyez-nous un courriel pour ajuster des bugs et tout ça. Et après ça, on va sortir un release, qui est une version encore un peu travaillée, puis après ça, on sort la version finale. D'accord? La compagnie, ce qu'elle est en train de nous dire, lorsqu'elle sort un site bêta, un exemple, c'est quand Chrome a sorti, ils ont sorti une version bêta, donc elle est imparfaite. On est en train de travailler, faire les ajustements et tout ça, là. Alors, c'est une version bêta. Vous pouvez la visiter, allez-y, pas de problème. On vous donne la permission de la visiter. Mais sachez tout de suite que ça va arriver, vous allez vous accrocher. C'est correct. Alors, la version peut être utilisée, la version bêta peut être utilisée, mais avec précaution. En d'autres mots, lorsque tu rencontres un problème, dis-toi, oui, c'est vrai, c'est la version bêta. C'est pas parfait. Alors, t'envoies un courriel et tout ça avec... Parce que tu comprends, tu n'as pas de colère et tout ça, c'est une version bêta, tu peux pas te mettre en colère, ils te le disent. En d'autres mots, on s'attend à une chose avec la version bêta, c'est une version de grâce attendue. On s'attend que tu uses de grâce envers la compagnie parce que c'est une version qui est en devenir, est en train de travailler, on est en train de l'améliorer, d'accord? Ce que Paul est en train de nous dire ici, il dit, écoutez, soyez patients. On est tous des chrétiens bêta. Comprends-tu? On est des chrétiens bêta. Sois patient avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu est en train de faire une œuvre avec moi. Donc, sois patient avec moi. Et si je te pile sur les pieds, attends-toi que je te pile sur les pieds. À ce moment-là, si tu as sujet à te plaindre de moi, ben pardonne-moi comme Christ t'a pardonné. Soyons patients les uns envers les autres. Amen. Allez-vous être patient avec moi? Oui. Et je vais être patient avec vous autres. Parce que vous êtes des chrétiens bêta. Dis ça à ton mari, là. Correct? C'est une version bêta. Tu peux dire ça à ton mari. C'est correct? C'est une version bêta. C'est pas fini encore. C'est quoi? La release ou la version finale va être seulement au ciel. Tu vas voir la version finale de ton mari au ciel. Pour le moment, c'est une version bêta. Alors, endure. Non, mais c'est ça le mot grec dit. Endurez-vous. Supportez-vous. On est pécheurs. On est imparfaits. On va s'accrocher. On va se rentrer dedans. Puis on veut s'améliorer, on peut rester de même, c'est pas une excuse pour rester comme ça, évidemment, là. Tu sais, là, c'est pas, non, mais non, là, tu dis pas, ben non, écoute, chérie, moi, je suis bêta. Je suis bêta. Non, non. T'es bêta. Là, t'es, sois patient. Mais en même temps, travaille. On veut travailler. On veut travailler sur nos affaires, évidemment. Alors, comment avoir plus de patience? Parce que là, c'est bien beau de savoir comment c'est important d'être patient. Maintenant, comment être patient? Premièrement, rappelle-toi, et c'est ça le point que Paul fait, rappelle-toi comment Dieu était patient avec toi. N'est-ce pas? En d'autres mots, rappelle-toi de l'Évangile. Rappelons-nous qu'on abuse de la patience de Dieu tous les jours. C'est vrai? Tous les jours, on abuse de la patience de Dieu. Alors, soyons patients avec les gens qui nous entourent. On a besoin de regarder à Jésus et voir sa patience, de voir prendre les coups, prendre la couronne d'épines sur lui, de recevoir des coups de fouet, prendre des clous pour toi et pour moi. Alors ça, c'est de la patience. Alors c'est pour ça que Paul va dire au verset 13, justement du passage qu'on a lu tantôt dans Colossiens 3, 13, « Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Jésus nous dit, « Regarde comme je suis patient avec toi. » Alors sois patient. Montre de la délicatesse. Sois gracieux. Alors premièrement, rappelle-toi comment Dieu était patient avec toi et comment il continue à être patient avec toi tous les jours. Et deuxièmement, rappelle-toi de la majesté de Dieu, de sa grandeur. Imagine, là, tu veux partir en affaires. Tu veux, quand tu as quelques sous de côté, puis ça, tu veux partir en affaires, mais tu as besoin d'aide. Alors là, il y a une idée folle qui te vient en tête. Tu vas avoir des conseils, puis tu vas avoir de l'aide. Il y a une idée folle qui passe en tête. Tiens, je vais appeler Bill Gates. Hein? J'appelle Bill Gates. Je vais lui demander ses conseils. Ben, c'est une idée folle. Tu dis, ça n'a pas de bon sens. Je ne passerai jamais les secrétaires et tout ça, les bureaux, etc. Alors, mais tu prends une chance. Tu prends une chance, tu prends le téléphone, tu réussis à avoir son numéro de téléphone, tu prends le téléphone, tu téléphones, puis la secrétaire répond, tout ça. Ça donne cette journée-là, on ne sait pas pourquoi. Tu tombes dans ses bonnes grâces, et cette journée-là, elle te dit, ben aucun problème, monsieur. On fait une exception. Normalement, on n'accepterait pas ça, mais on va faire l'exception. On va te donner ce privilège-là. Oui. Tiens, je pense que Bill Gates va même être content de donner un conseil. Fait que, oui, absolument, rendez-vous à lundi à 1h, ici, telle adresse. Puis Bill Gates va vous rencontrer. T'es mon ami. Aïe, aïe, aïe. Hein? Là, tu dépenses les sous, hein, tu prends de l'argent, puis let's go, tu prends l'avion, tu t'en vas en Californie et tout ça. Puis tu t'en vas à son bureau. Immense et beau, c'est tout ça. Alors, là, il est là. Il est 1h. T'es là d'avance. T'es là, 1 heure, 1 demi-heure, 1 heure d'avance. Puis t'es assis là, puis t'attends, là, t'es là, puis ça. À 2 heures, la secrétaire vient de voir, excusez. Il est présentement en appel conférence avec quelqu'un en Chine, quelqu'un en Afrique, puis quelqu'un en Europe. À Paris, en France. Pouvez-vous, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes correct d'attendre? Non. Ben non, je suis tanné d'attendre. Tu sais que je m'en vais chez nous, moi. Ben non, je suis tanné. Cette affaire-là, pour qui se prend, lui? Me faire attendre de même? Non, hein. Non. Tu dis pas un mot, puis t'es gentil, tu fais un beau sourire. Aucun problème, madame. Ah, qu'il prenne son temps. Hey, je vais attendre toute la journée, s'il faut. Pourquoi t'es prête à faire ça? Pourquoi tout d'un coup, tu es plus patient que d'habitude? À cause de la grandeur, ce méga financier, à cause de la grandeur de celui que tu attends. Vrai? Tu veux avoir plus de patience? Rappelle-toi de la majesté et de la grandeur de Dieu. Rappelle-toi qui Dieu est. Et tu vas voir, en regardant ce qu'il est, tu vas être plus patient. Ça va rehausser ta patience. Donc, rappelle-toi comment Dieu était patient avec toi. Et rappelle-toi de la grandeur et de la majesté de ton Sauveur. Amen. Alors, soyons patients, bien-aimés. Attends la pluie de Dieu. Peut-être que maintenant, c'est sèche. C'est dur. Attends. Sois patient. Et Dieu promet de t'envoyer la pluie de sa bénédiction. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier parce que oui, effectivement, tu as tellement été patient avec nous. Et nous voulons prendre cette sainte scène ce matin, on prend le repas, ton repas, le repas du Seigneur, qui nous rappelle cette patience, cette grande bonté. Lorsqu'effectivement, tu as privé le ciel de son plus grand trésor, Jésus-Christ. Ton propre Fils. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette patience et on te demande, par l'aide de ton esprit, de faire produire ce beau fruit dans nos vies qu'est la patience, d'accepter ton calendrier au nom de Jésus. Amen. Eh bien, j'inviterai les frères à venir pour la distribution des éléments. Et si vous êtes